Vous écoutez On lit pour vous.
Jean Damboulé, la paraplégie n'a pas empêché ce jeune entrepreneur de réaliser ses rêves. Un texte de Sophia Iulianella, conseillère en animation et communication. C'est à l'âge de 15 ans que Jean Damboulé a vu sa vie basculer après un accident de motocross qui l'a rendu paraplégique. 11 ans plus tard, il est devenu père de famille et est à la tête de 2 entreprises. Jordan s'engage aussi activement dans des causes qui lui tiennent à cœur. Récit du parcours d'un jeune homme déterminé qui refuse de s'arrêter aux obstacles. Rien n'arrête Jordan Boulay dans l'atteinte de ses objectifs. À l'âge de 15 ans, il vit un accident de motocross qui lui brise le dos. Sa moelle épinière est écrasée et il devient paraplégique. Citation. Après l'accident, t'es à l'hôpital, t'as un corset super serré, t'as de la misère à faire de quoi? Mon moral n'était pas super. Je suis passé d'un gars qui faisait 4 sports en même temps à un gars même pas capable de se lever le matin sans aide. Fin de citation. Après 1 an de réadaptation et 3 ans de physiothérapie, Jordan décide qu'il en a assez de s'acharner sur sa rééducation. Il se lance dans le milieu du travail. Le jeune travailleur commence à œuvrer pour son père, propriétaire du groupe JMV, une entreprise multiservice œuvrant dans la gestion des matières résiduelles, la location d'équipements lourds et le déneigement. Il y occupe le poste de répartiteur où il participe à la coordination des opérations quotidiennes. Être aux côtés de sa famille lui donne de l'expérience et de la confiance. C'est ce qui lui permet, en 2021, de lancer sa première entreprise, Pneu 911, un service spécialisé dans les pneus pour poids lourds, tout en continuant de travailler dans l'entreprise familiale. Spacebox pourrait aider aussi les personnes en situation de handicap. En 2024, il crée Spacebox, une compagnie de mini-entrepôts mobiles. Ce concept est innovant. Selon lui, Spacebox peut vraiment aider les personnes qui, comme lui, sont en situation de handicap. Ça évite les déplacements inutiles et rend la logistique plus simple, explique-t-il. Être un jeune entrepreneur à mobilité réduite n'est pas toujours facile. Le jugement des autres est souvent un obstacle, mais pour Jordan, il faut apprendre à passer par-dessus. Le jeune homme accorde beaucoup d'importance à son entourage qui l'aide autant dans sa vie, tant personnelle que professionnelle. Il a eu comme exemple ses proches, qui ont toujours travaillé fort sans jamais lâcher. La persévérance, la clé du succès. Citation. Peu importe quoi, si tu travailles fort, ça va marcher. Il y a des gens qui ont du succès à 20 ans et d'autres à 60. Fin de citation. Chaque année, le groupe JMV organise des événements pour amasser des dons pour des causes qui lui tiennent à cœur. L'année passée, son tournoi de golf a versé 25 000 $ à la Fondation Moelle Épinière et Motricité Québec. Citation. Les actions de Mémo Québec aident vraiment. Par exemple, la soirée sur roue a été grandement appréciée. J'ai vraiment aimé. Moi-même, j'ai amené 3 de mes amis. Tout le monde était en fauteuil roulant. Ça sensibilise les gens. Fin de citation. L'importance de la famille et de l'entourage. Aujourd'hui, à 26 ans, ses proches et sa compagnie sont sa priorité. Il veut aussi changer la façon dont les gens perçoivent les personnes en situation de handicap. Citation. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. C'est une des choses les plus difficiles à faire, mais ça reste pareil tant que tu n'acceptes pas ton handicap et que tu te décides de faire avec. Ça ne change pas tant que tu ne veux pas t'en sortir. Fin de citation. Pour lui, l'important, c'est d'être bien entouré, avec des gens de cœur à qui on peut s'identifier. Citation. Le handicap ne partira pas, mais tu peux t'adapter. Fin de citation. C'était Jordan Boulay, la paraplégie n'a pas empêché ce jeune entrepreneur de réaliser ses rêves. Un texte de Sophia Iulianella, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
À la rescousse des crottes d'ours. Un texte de Noémie Larouche, paru le 18 juin 2026 dans la presse. Il pensait que les pommes de terre poussaient sur les branches comme sur un pommier. Ma belle-mère rit de bon cœur en se rappelant son mari guettant l'arrivée des fruits sur les plants de pommes de terre. Fille d'agriculteur, Suzanne a appris très jeune que la récolte des patates laisse de la terre sous les ongles. Elle se rappelle parfaitement la façon de rabattre la terre autour des plants pendant leur croissance. On dira « buter les plants » et de la cave en terre battue où étaient entreposées les patates. On en mangeait beaucoup, tous les jours. On en laissait aussi germer une partie pour les remettre en terre l'année suivante. C'était dans les années 1940. À l'époque, de nombreuses familles québécoises assuraient ainsi leur subsistance et parfois même sans le savoir, la préservation d'une grande variété d'espèces végétales adaptées à leur environnement. Puis, avec le temps, l'agriculture vivrière a perdu du terrain au profit de l'agriculture industrielle. Des centaines de milliers d'enfants de la campagne ont migré vers la ville, laissant derrière eux l'œuvre inachevée des générations qui les avaient précédés. C'est ce qui est arrivé à Louis-Marie Ouellette de Kamouraska. L'homme avait 80 ans, quand il a réalisé que le trésor que lui avait confié son père, qui en avait lui-même hérité du grand-père, risquait de mourir avec lui. Désespéré, il s'était rendu chez le semencier pour lui confier son bien précieux, 3 belles crottes d'ours. Antoine d'Avignon, pionnier dans la préservation des semences du patrimoine, les avait accueillis avec respect. Lui, mieux que quiconque, en mesurait la valeur. Son potager comptait déjà nombre de fleurs et légumes oubliés, dont plus de 25 variétés de pommes de terre rares. Parce que, vous l'avez deviné, la crotte d'ours est une variété de patates qui, sans le travail d'Antoine d'Avignon, aurait été rayée de la carte. Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, la crotte d'ours a fait son chemin jusqu'à notre jardin de la Naudière. Des amis, des collègues, et leurs enfants s'activent à planter quelques 300 pommes de terre, dont une centaine de crottes d'ours, ainsi que des Mark Washua, une variété elle aussi sauvée in extremis par un agriculteur du même nom. Ces patates côtoieront la betterave Kyogia, le concombre Tantalis, la tomate jaune flammée, le melon brodé Oka et la courge galeuse des Innes, entre autres d'Yves Gagnon. Un autre réputé semencier, précurseur du jardinage écologique au Québec, à qui on doit notamment la préservation de la tomate Savignac. Ici, j'entends les sceptiques marmonner. Pourquoi se fatiguer à sauver de vieilles tomates? Est-ce que j'ai vraiment besoin de crottes d'ours dans mon pâté chinois? Après tout, une tomate est une tomate et une patate. Une patate, non? Oui, mais non. Une poignée de multinationales agrochimiques contrôle le marché, dont plusieurs variétés développées pour s'adapter aux pesticides vendus par ces mêmes compagnies. Résultat, des végétaux qui, avant qu'on s'en mêle, avaient la capacité de s'adapter à leur environnement et de se défendre des attaques de leur milieu naturel, deviennent tributaires du marché. Même les agriculteurs et agricultrices de métier ne peuvent généralement pas en récupérer les semences pour l'année suivante et se voient contraints d'en acheter de nouvelles. Des plantes sans histoire. À obsolescence programmée. La faune perd en biodiversité et l'assiette en variété de saveurs. En l'espace d'un siècle, les 3/4 de la diversité génétique des espèces cultivées dans le monde ont disparu. On n'y voit que du feu, lorsqu'on se retrouve à l'épicerie devant le choix de pommes McIntosh, Gala, Cortland, Spartan, Empire, Honeycrisp, et pourtant, sur les 7000 variétés de pommes qui poussaient en Amérique du Nord il y a 100 ans, 6700 ont disparu. Pas juste des étals, disparu tout court. Comme dirait l'épicier, ben oui, fini, ben oui. On parle avec raison de la nécessité de revoir nos façons de faire pour augmenter notre autonomie et notre résilience dans un contexte de changement climatique. Justement, les variétés anciennes ont développé un bagage génétique qui leur permet de s'adapter à leur milieu et aux caprices extrêmes du climat. Leur résistance et leur diversité sont un de nos meilleurs remparts contre l'insécurité alimentaire, à condition, bien sûr, qu'elles continuent d'exister. Préserver ce patrimoine, c'est la mission que se sont donnée des jardiniers de partout au Québec. Ils sont une vingtaine de semenciers et quelques authentiques passionnés. Éric Delorimier, notre fournisseur de crottes d'ours, produit des arbres fruitiers adaptés au climat nordique. La fille d'Yves Gagnon, Catherine Gagnon-Mackay, gère une entreprise par laquelle elle distribue les semences de son père et d'une dizaine de semenciers du patrimoine de la province. Même Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain, a bifurqué du chemin tracé de sa profession pour devenir l'ambassadeur numéro un du melon de Montréal, une espèce ancestrale qui, loin de bouder la ville, y pousse presque aussi vite que les cônes oranges. Autant de fruits et légumes magnifiques et savoureux qui, certes, ne répondent pas aux standards d'uniformité, de productivité et de transport de l'industrie, mais méritent d'être découverts, préservés et mangés. C'est ça notre jardin. Là où certains voient des rangs de légumes, moi je vois une multitude de petites histoires qui, mises bout à bout, font l'histoire avec un grand H. Je vois Louis-Marie Ouellette, Antoine d'Avignon, Yves Gagnon, sa fille. Un savoir transmis de génération en génération, je vois une communauté mobilisée pour préserver notre patrimoine et notre biodiversité. Je vois aussi des personnes de tous âges et d'horizons divers qui, sans attente autre qu'un bon repas à partager, acceptent de nous consacrer du temps, de prendre la bêche et la grelinette pour nous aider. Je vois le monde dans ce qu'il y a de plus beau à offrir, des gens qui travaillent ensemble dans le but de faire de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Qui sont-ils? Noémie Larouche est directrice de l'édition des éditions La Presse. Auparavant, elle a dirigé les magazines scientifiques Les Débrouillards, Les Explorateurs et Curium. Ulysse Bergeron est journaliste d'enquête à La Presse avec un intérêt particulier pour l'économie, la finance et l'environnement. Ils ont pris le champ ensemble en embarquant avec eux Aude, l'aînée de la famille, et Madeleine, sa sœur cadette. C'était « À la rescousse des crottes d'ours », un texte de Noémie Larouche, paru le 18 juin 2026 dans La Presse.
Connexion en jeu, la cicatrice. Un texte d'Adriane Castellanos Molina, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026. Pour celles et ceux qui ont suivi mes articles l'année dernière, nous avons parlé des bases biologiques de la moelle épinière et de la façon dont le système immunitaire réagit après une lésion médulaire. Faisons maintenant un pas de plus pour comprendre l'une des conséquences majeures d'une lésion, la formation d'une cicatrice. Je pourrais vous dire que la cicatrice est étudiée depuis la fin du 19e siècle, que des milliers d'articles scientifiques tentent d'en décrypter la complexité et de résumer plus d'un siècle de recherche en quelques paragraphes. Mais épargnons-nous cela. Parenthèse, que les grands neuroscientifiques de l'histoire me pardonnent. La cicatrice, c'est tout simplement une barrière. Après la lésion, le tissu nerveux est endommagé et vulnérable. Comme je l'expliquais l'été dernier, les cellules du système immunitaire arrivent, nettoient la zone, mais peuvent aussi aggraver les dommages à la moelle épinière saine. Pour contenir cette inflammation, la solution la plus efficace est de dresser une barrière. Elle protège et limite l'extension des dégâts. Le problème, c'est qu'une fois en place, cette barrière empêche aussi les autoroutes nerveuses, les axones des neurones qui assurent la communication entre le cerveau et le reste du corps, de traverser la zone lésée, devenant ainsi l'un des principaux obstacles à une régénération fonctionnelle. C'est dans cette perspective que j'ai réalisé une entrevue avec Eduardo Verissimo, rencontré lors d'un congrès, qui travaille sur la cicatrisation après une lésion de la moelle épinière. Sa recherche m'a beaucoup marqué. C'est pour cette raison que Virginie Archambault, agente de recherche Amémo Québec, et moi lui avons posé une série de questions pour qu'il nous présente ses travaux et nous explique comment tenter de dépasser cette barrière pour aller vers la régénération. La souris épineuse, une régénération surprenante. Entrevue avec Eduardo Verissimo par Adriane Castellanos Molina et Virginie Archambault. Eduardo Verissimo est doctorant au sein du groupe de recherche sur la régénération nerveuse sous la supervision de Dr. Monica Souza. Il a obtenu sa licence en biochimie à l'Université de Porto, au Portugal, en 2019, puis sa maîtrise en neurobiologie dans la même université en 2021. Il poursuit présentement son doctorat en biologie moléculaire et cellulaire à l'École de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Porto. Ses recherches portent sur la définition des facteurs intrinsèques neuronaux qui soutiennent la régénération des axones d'Acomis après une lésion de la moelle épinière, LME. On dit souvent que la moelle épinière ne peut pas se régénérer après une lésion. Pourquoi cette capacité est-elle limitée? Les neurones du système nerveux central adulte ont une capacité de régénération très limitée après une lésion. Il y a deux raisons principales à cela. Premièrement, l'environnement autour de la lésion devient hostile à la repousse. Du tissu cicatriciel se forme au niveau du site de la lésion, créant des barrières qui bloquent la guérison, à la fois en gênant physiquement la réparation et aussi en libérant des substances qui empêchent les axones, neurones, de repousser. Deuxièmement, les neurones eux-mêmes changent avec le temps. Au cours de leur développement, les neurones ont des programmes de croissance puissants qui leur permettent d'étendre leurs axones et de former des connexions. Mais une fois ces connexions établies, cette capacité de croissance intrinsèque diminue. Après une lésion, les neurones adultes ont du mal à réactiver ces programmes de croissance. Des mécanismes cellulaires complexes doivent fonctionner de manière précise et coordonnée pour permettre la régénération, et dans la moelle épinière adulte, cette coordination est en grande partie perdue. Vous travaillez avec la souris épineuse, Acomis. Pourriez-vous expliquer ce qu'est cette espèce, ce qui la différencie des autres mammifères et comment cela se traduit dans sa réponse aux lésions de la moelle épinière? La souris épineuse ou Acomis se distingue par ses remarquables capacités de régénération. Contrairement à la plupart des mammifères, qui guérissent généralement leurs blessures en formant du tissu cicatriciel, l'Acomis possède une capacité exceptionnelle. Il peut régénérer plusieurs tissus, notamment la peau, le muscle cardiaque et le tissu auriculaire, sans laisser de cicatrices. Cette réponse régénérative lui permet de restaurer l'architecture et la fonction normale des tissus plutôt que de les remplacer par du tissu cicatriciel. Appliqué aux lésions de la moelle épinière, une réponse cicatricielle réduite se traduit par un environnement plus permissif pour les lésions, avec moins de cicatrices et d'inflammations inhibitrices comparativement aux autres mammifères. En conséquence, la moelle épinière de l'Acomis montre une plus grande capacité à préserver les tissus et à soutenir les processus de réparation après une lésion, offrant ainsi des informations précieuses sur les mécanismes qui pourraient être exploités pour améliorer la régénération de la moelle épinière humaine lésée. Comment les capacités régénératives exceptionnelles de l'Acomis ont-elles été découvertes pour la première fois? Les scientifiques ont découvert les capacités régénératives de la souris épineuse au début des années 2010 grâce à des observations inattendues lors de recherches en laboratoire. Les chercheurs ont remarqué que la peau de ces animaux se déchirait facilement, mais cicatrisait anormalement vite et sans laisser de traces visibles. De plus, en 2012, une équipe de recherche dirigée par Dr. Ashley Seifert de l'Université du Kentucky a mené des expériences contrôlées et confirmé que les souris épineuses pouvaient régénérer de larges sections de peau. Ces souris ont également été capables de régénérer le cartilage et refermer complètement leurs plaies. Et ce, contrairement aux souris de laboratoires habituels qui guérissent de leurs plaies en laissant des cicatrices permanentes. Ces résultats ont démontré une véritable régénération tissulaire plutôt qu'une simple réparation des plaies. Que devient la souris épineuse après une grave lésion médulaire? Comment sa guérison se compare-t-elle à celle d'une souris de laboratoire habituelle? Nous avons observé une réduction de la formation de cicatrices, ce qui est essentiel car les tissus cicatriciels bloquent normalement la repousse des nerfs. Au lieu de former des cicatrices denses, l'Acomis produit un environnement de guérison plus léger qui permet une plus grande régénération neuronale et la réparation des tissus. Elle présente également des niveaux d'inflammation plus faibles et une activation réduite des fibroblastes, des cellules qui contribuent normalement à la formation de cicatrices permanentes. En conséquence, la commisse conserve davantage la structure de sa moelle épinière et montre une récupération de ses fonctions motrices et urinaires au fil du temps. En revanche, les souris de laboratoire habituelles réagissent à une lésion de la moelle épinière par une forte inflammation et la formation rapide d'une cicatrice. Par conséquent, elles souffrent d'une paralysie permanente en dessous du site de la lésion avec une récupération fonctionnelle minimale. Votre profil de recherche met en avant la régénération des axones comme un axe majeur de vos travaux. Pour les personnes qui ne sont pas des scientifiques, pourriez-vous expliquer ce que signifie la régénération des axones et pourquoi elle est si importante? La régénération des axones désigne la capacité des neurones à faire repousser leurs longues extensions semblables à des câbles, appelés axones. Les axones agissent comme des fils électriques dans le corps. Ils transmettent des messages du cerveau aux muscles et du corps au cerveau. Après une lésion de la moelle épinière, ces axones sont souvent sectionnés ou endommagés. C'est pourquoi les humains peuvent perdre la capacité de bouger, de sentir le toucher ou de contrôler les organes situés en dessous du site de la lésion. En ce sens, la régénération des axones est importante car elle constitue l'étape clé nécessaire pour rétablir ces voies de communication interrompues. Cela peut conduire à une récupération partielle, voire significative des mouvements, des sensations et d'autres fonctions corporelles. Comment le modèle de la commisse pourrait-il changer ou influencer la recherche sur les lésions médulaires dans les années à venir? Chez la plupart des mammifères, y compris les humains, la moelle épinière guérit malheureusement en formant du tissu cicatriciel plutôt qu'en reconstruisant les connexions nerveuses. C'est pourquoi la communauté scientifique s'intéresse beaucoup aux animaux comme la souris épineuse. En étudiant la façon dont la commisse crée un environnement plus propice à la régénération, les scientifiques peuvent identifier les gènes clés et les voies biologiques qui favorisent la récupération. Ces connaissances pourraient déboucher sur de nouveaux traitements qui réduisent la formation de cicatrices et favorisent la repousse des axones chez l'homme. Pour finir, quels sont les principaux défis auxquels les scientifiques seront confrontés avant que les découvertes issues de la régénération animale puissent être transformées en traitements sûrs et efficaces pour être appliquées sur les personnes lésées médulaires? L'un des principaux défis consiste à transposer la régénération animale à l'être humain. Même lorsque des gènes utiles ou des voies de guérison sont identifiées chez des espèces régénératrices, le système nerveux humain réagit très différemment aux lésions. Un autre défi majeur consiste à contrôler la réponse immunitaire et la formation de cicatrices sans provoquer d'effets secondaires néfastes tels que des infections ou une croissance anormale des tissus. Nous devrons également nous assurer que les nouveaux traitements permettent aux fibres nerveuses en régénération de se reconnecter correctement et non pas de se développer de manière aléatoire ou anormale. Enfin, prouver la sécurité et l'efficacité de ces traitements par des essais cliniques à long terme est un processus lent et complexe. Il est essentiel de surmonter ces défis avant que les découvertes en matière de régénération puissent devenir des thérapies fiables pour les patients atteints de lésions médulaires. C'était « Connexion en jeu, la cicatrice », un texte d'Adriane Castellanos-Molina, suivi de « La souris épineuse, une régénération surprenante », entrevue avec Eduardo Verissimo par Adriane Castellanos-Molina et Virginie Archambault, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Les vélos électriques causent des blessures plus graves. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne paru le 24 juin 2026 dans Le Devoir. Les chutes en vélo électrique causent des blessures particulièrement graves aux jambes, aux chevilles et aux genoux, constatent de plus en plus les médecins. Certains commencent même à regrouper ces blessures sous l'appellation informelle de « Lime Bike Leg ». Lime étant le nom d'une entreprise de location de vélos et de scooters électriques présente un peu partout sur la planète, y compris à Montréal. Ces blessures ne sont toutefois pas propres à une entreprise en particulier. elle semble plutôt être liée à l'essor rapide de l'utilisation des vélos électriques. Si on regarde un peu les mécanismes des chutes et tout ça, il y a beaucoup plus de blessures graves que si on n'avait pas un vélo électrique d'impliqué, a commenté le docteur Julio Fernandez, qui est chirurgien orthopédiste au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Compte tenu du poids des vélos électriques et des vitesses dont ils sont capables, lorsque les utilisateurs perdent le contrôle, le vélo peut tomber sur leurs jambes ou la coincer contre le sol, générant ainsi des forces de torsion et d'écrasement peu courantes avec des vélos conventionnels. La vitesse, c'est l'aspect numéro un, a dit le docteur Fernandez. Deuxième chose, c'est le poids. Une fois qu'on chute, si le vélo tombe sur nous, il y a un effet de masse qui peut causer donc une blessure plus grave, ça c'est sûr. Certaines des blessures qui en résultent ressemblent à celles que l'on observe plus souvent lors d'accidents de moto, souligne-t-on. La plupart des blessures seraient attribuables au manque de familiarité des utilisateurs avec leur vélo électrique, particulièrement en ce qui concerne la vitesse à laquelle ils circulent en fonction des conditions du moment. Les nouveaux utilisateurs doivent comprendre que les vélos électriques, étant plus lourds, réagiront différemment des vélos conventionnels, par exemple en ce qui concerne les virages et le freinage. Ils seront aussi plus susceptibles de perdre l'équilibre à basse vitesse. « Est-ce que les gens portaient un casque ou pas de casque ?» a demandé le docteur Fernandez. « Si les gens ne font pas attention à leur propre sécurité, quand on dit trauma crânien, c'est les deux tiers des décès. Alors, on voit la cause et les faits. Le Québec ne dispose pas de données spécifiques aux blessures subies en vélo électrique, a-t-il ajouté, mais depuis 10 ans, on recense chaque année environ 1 000 hospitalisations dues à des accidents de vélo traditionnels. Ces chiffres ne comprennent pas les blessés qui se présentent aux urgences par leurs propres moyens. Des statistiques européennes, en revanche, montrent que la fréquence d'accidents par kilomètre roulé est similaire si on compare les vélos électriques aux vélos traditionnels, mais que les blessures subies sont plus graves, notamment des traumatismes crâniens, des fractures du bassin et des fractures de la colonne vertébrale plus sérieuses, a dit le docteur Fernandez. On ne sait pas si les accidents de vélos électriques sont plus fréquents que les accidents de vélos ordinaires, mais quand ils surviennent, c'est certain que c'est plus grave, a-t-il conclu. C'était « Les vélos électriques causent des blessures plus graves », un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 24 juin 2026 dans Le Devoir.